Europe 1. Ondelat raconte. Christophe Ondelat.
Voici l'histoire d'une héroïne de la cause noire, Rosa Parks, célèbre pour avoir refusé de laisser sa place dans un bus à un blanc. C'était en 1955 à Montgomery, dans l'Alabama, aux États-Unis. J'ai tiré ce récit de son autobiographie, Mon histoire chez Libertalia. Pour le débrief, j'aurai la chance d'avoir avec moi Corentin Célin, qui est un historien et spécialiste des États-Unis. La réalisation est signée Céline Lebras.
Europe 1, Christophe Ondelat.
Voilà comment Rosa Parks elle-même raconte dans ses mémoires le geste qui l'a rendue célèbre. Un soir, début décembre 1955, dans un bus de Montgomery, j'étais assise à une place située sur la première rangée de la section pour les gens de couleur. Les blancs, eux, étaient assis dans la partie avant du bus qui leur était réservée. D'autres blancs montèrent à bord et la section blanche se trouva sans plus aucune place assise. Quand une telle situation se présentait, nous autres, les Noirs, étions censés laisser nos places aux Blancs. Mais ce jour-là, je n'ai pas bougé. Le conducteur m'a lancé. « Libère donc ces premières rangées de sièges !» Je n'ai pas bougé. Je ne me suis pas levé. J'en avais assez de céder devant les Blancs. Le chauffeur m'a dit « Je vais te faire arrêter !» Et moi, j'ai répondu « Vous n'avez qu'à faire ça !» Deux policiers blancs sont arrivés et j'ai demandé à l'un d'entre eux « Pourquoi est-ce que vous nous malmenez autant ?»«
Je sais pas, mais la loi est la loi. Tu es en état d'arrestation. »
J'en avais assez de céder. Quand Rosa Parks pose ce geste, elle a 42 ans. Et je vais vous raconter son histoire depuis le début, pour tenter de comprendre pourquoi, ce jour-là, elle a dit non. D'où elle a tiré la force de dire non. Rosa naît en février 1913 à Tuskegee, dans l'Alabama. Son père est maçon et charpentier. Il s'absente beaucoup pour ses chantiers et un jour, il finit par ne plus rentrer. Rosa grandit donc avec sa mère chez ses grands-parents maternels dans une ferme à Pine Level, toujours dans l'Alabama. Vers 3-4 ans, elle voit bien que les Blancs et les Noirs ne vont pas dans les mêmes écoles. Que les écoles des Blancs ont des vitres en verre alors que son école à elle n'a que des volets en bois. Elle va à l'école à pied. Et elle voit le bus des enfants blancs qui lui jettent leurs déchets par la fenêtre. Et surtout, à partir de l'âge de 6 ans, elle sait où est le fusil de son grand-père. Un fusil à deux coups qu'il garde à portée de main.
« Je ne sais pas combien de temps je pourrais tenir s'il débarque ici, mais je flingue au moins le premier qui franchit cette porte. »
De qui parle son grand-père? Du Ku Klux Klan. Depuis quelque temps, ils font des descentes dans les quartiers noirs. Il brûle des églises, il passe des noirs à tabac, parfois il les tue. Alors Rosa, le soir, se couche tout habillée, au cas où il viendrait. Et parfois, elle reste avec son grand-père, éveillée, à monter la garde. Lui, dans son fauteuil à bascule, le fusil à portée de main, et elle, assise à côté, devant la cheminée. En se disant, dans sa tête de petite fille de 6 ans,
« Je veux le voir utiliser son fusil. Je veux être là !»
Le grand-père de Rosa n'est pas noir noir. Il a la peau très claire. Et comme en plus il a les cheveux raides, parfois les gens le prennent pour un blanc. Et lui, il en profite. Il va droit vers les blancs et il leur tend la main.
« Bonjour, mon nom est Edward. »
Ça ne se fait pas. On ne serre pas la main des blancs. Et un noir ne se présente que par son prénom, jamais par son nom. Et Edward, c'est son nom. Mais le grand-père est comme ça avec les Blancs. Il est belliqueux. Du coup, il ne veut pas que Rosa joue avec les enfants blancs, ceux du contremaître de la plantation, par exemple.
« Je ne veux pas vous voir approcher les Blancs. Je ne veux pas !»
Ça forge le caractère, un grand-père comme ça, non ? Rosa a 10 ans. Sur le chemin de l'école, elle croise un petit blanc de son âge, Franklin, qui la regarde le poing serré.
« Je vais te taper dessus, toi »
Qu'est-ce qu'elle fait? Elle attrape une brique et elle lui dit « Vas-y !» Prête à lui jeter la brique à la figure. Et le gamin se déballonne et il poursuit son chemin. Rosa, 10 ans. Et après, elle se fait engueuler par sa grand-mère.
« Rosa, tu as les nerfs à fleur de peau. Si tu n'es pas plus prudente, ils vont te lyncher avant tes 20 ans. »
Du coup, elle a peur. Vous voyez que toute petite, Rosa Parks a du caractère. Et elle est déjà une résistante à la ségrégation. En 1924, Rosa a 11 ans et sa mère l'envoie poursuivre sa scolarité dans la ville d'à côté, Montgomery, dans de la famille. Elle arrive de la Cambrousse et elle découvre l'existence en ville de fontaines séparées. C'est écrit dessus, hein? White, seuls les blancs peuvent y boire. Color, ça c'est pour épancher la soif des noirs.
D'après toi, l'eau, elle a le même goût? Je sais pas. J'ai jamais goûté l'eau des Blancs.
Rosa va à la meilleure école pour noirs de Montgomery. Un jour, elle rentre de l'école et elle doit traverser un quartier blanc. Elle est sur le trottoir et là, un gamin blanc en patin à roulette lui donne un coup d'épaule pour la pousser hors du trottoir. Elle se retourne, elle le pousse à son tour. La mère du gamin se met à hurler.
Non mais ça va pas! Je peux t'envoyer en prison si je veux! T'en sortiras jamais!
Et elle lui répond, l'effrontée.
Mais c'est lui qui m'a poussé en premier! Moi j'ai rien fait!
Dans sa nouvelle école, la directrice est blanche. Miss White l'a bien nommée. Rosa l'adore, comme elle adore cette école. Tous les professeurs sont blancs, pourtant. Mais c'est une école militante. Miss White est une blanche qui a épousé la cause des Noirs. Elle veut donner aux jeunes filles noires de l'ambition. Et Rosa se dit qu'elle a bien de la chance d'être là, avec cette directrice qui les traite avec dignité, sans jamais les rabaisser. Elle suit les cours classiques, anglais, sciences, géographie, et aussi des cours de sciences domestiques pour apprendre à cuisiner, à coudre, à s'occuper des malades. Et c'est comme ça qu'elle devient une bonne couturière. Un jour, Rosa est avec sa cousine en train de ramasser des baies dans un terrain vague. Un gamin blanc leur lance.
Hé les négros, vous feriez mieux de pas toucher à ça.
Et du tac au tac, Rosa lui dit.
Toi, si tu viens ici, on va te coller une sacrée raclée.
Je vous ai raconté toutes ces petites histoires de l'enfance pour vous dire en vérité qu'une héroïne comme Rosa Parks, ça ne se fabrique pas en un jour. Après le collège, Rosa va un temps à l'université pour devenir enseignante. Et puis à Pine Level, sa mère et sa grand-mère ont des problèmes de santé, elle rentre pour les aider. Et un peu avant ses 20 ans, une de ses amies lui présente Raymond Parks. Au début, elle le trouve trop blanc. Et c'est vrai qu'il a la peau très claire, même s'il a les cheveux d'un noir. Il est barbier, Raymond, dans un salon noir du centre-ville de Montgomery. Elle n'est pas intéressée, mais il insiste. Alors ils vont se balader en voiture, il a une petite nache rouge, c'est pas courant, un noir avec une voiture. Et dès la deuxième sortie, Raymond parle de mariage. Elle fait semblant de pas entendre, et puis il y revient.
« Je pense vraiment que nous devrions nous marier, Rosa. »
Rosa épouse donc Raymond au mois de décembre 1932. Et ce faisant, elle épouse un militant, le premier qu'elle rencontre. Car Raymond Parks, son désormais mari, milite à l'Association nationale des gens de couleur. une organisation qui combat la ségrégation et qui demande l'accès à l'éducation pour les Noirs. Et après le mariage, Rosa et Raymond vont s'installer en ville, à Montgomery, dans une petite maison. Rosa termine les études qu'elle avait dû interrompre et elle obtient son bac, comme seulement 7% des Noirs de son époque. Raymond a des réunions un peu secrètes le soir. Et de temps en temps, ça se passe à la maison. Et la scène est incroyable. La table de la cuisine est recouverte de pistolets. Les militants sont tous armés. Rosa n'assiste pas aux réunions. Elle reste sur la terrasse. Raymond est engagé entre autres dans la défense de ce qu'on a appelé les Scarborough Boys. 9 Noirs que 2 femmes blanches accusent de viol. Et qui sont innocents, mais qui ont été condamnés à mort. Il se bat pour sauver leur tête au sein d'un petit groupe clandestin. Et quand il va à ses réunions, Raymond doit se cacher. Rosa a maintenant 30 ans. Et là, 12 ans avant l'événement qui va la rendre célèbre, intervient un premier incident dans un bus. Je vous explique la règle. Dans les bus de Montgomery, il y a 36 places. Les 10 places de devant sont pour les Blancs. Et les 10 places de derrière, pour les Noirs. Et les 16 places du milieu, ça dépend. Ça dépend du chauffeur, qui au passage est armé et qui a des pouvoirs de police. Et donc un jour de l'hiver 1943, un bus arrive. La partie arrière, celle des Noirs, est pleine. Il y a des Noirs accrochés au marchepied. Et donc Rosa entre par l'avant et se dirige vers l'arrière. Le chauffeur l'interpelle.
« Oh ! Tu descends de mon bus et tu passes par l'arrière. Pourquoi faire ? Je suis déjà dans le bus, je vois pas pourquoi je devrais redescendre. Et puis comment je vais remonter après ? Le fond du bus est plein à craquer. » « Tu passes par l'arrière, je t'ai dit. Tu descends de mon bus. »
Et là, le chauffeur vient vers elle et il l'attrape par la manche. Rosa se dirige alors vers l'avant. Et là, elle laisse tomber son sac. Et pour le ramasser, elle s'assoit sur un siège de blanc.
« Descends de mon bus !»« Je vais descendre. Mais vous feriez mieux de pas me toucher. »
Et elle finit par descendre. Mais elle ne remonte pas par la porte arrière. Elle attend le bus suivant et elle se jure de ne jamais plus remonter avec ce chauffeur. Cette année-là, 1943, Rosa adhère à son tour, comme son mari, à l'Association nationale des gens de couleur. Alors qu'il n'y a quasiment pas de femmes dans le mouvement. Cela dit, on la colle secrétaire. Elle répond au téléphone, elle enregistre les adhésions, elle écrit les courriers. Et surtout, elle recense sur un cahier les cas de discrimination, les actes de violence envers les Noirs. Au début des années 50, à Montgomery, dans l'Alabama, les bus de transport public sont un sujet de friction récurrent. Pour une raison simple, ce sont les Noirs qui les empruntent. 70% de Noirs, les Blancs, ont des voitures. Mais il faut toujours garder ces fichus 10 places à l'avant pour les Blancs. À un moment, il a été question de boycotter des bus. Mais les Noirs ont refusé. Ils ne pouvaient pas s'en passer. Au printemps 1955, une adolescente noire qui s'appelle Claudette Colvin et une vieille femme, noire elle aussi, refusent de laisser leur place à un Blanc dans la partie centrale du bus. La police arrive, la vieille dame accepte de descendre, mais pas la gamine, Claudette.
J'ai payé mon billet. J'ai aucune raison de descendre.
La police la fait descendre de force, et Claudette est arrêtée. Et Rosa, en qualité de secrétaire de l'Association nationale des gens de couleur, la rencontre. Il est question de porter cette affaire devant la justice fédérale. Elle est d'accord. Mais au dernier moment, on découvre qu'elle est enceinte sans être mariée. Ça n'est pas le bon cheval. Les blancs s'en donneraient à cœur joie. Il faut une plaignante inattaquable. Et pourtant, Rosa jure qu'elle n'a fait aucun calcul. Le soir du 1er décembre 1955, Rosa attend donc son bus. Quand le bus arrive, elle est perdue dans ses pensées. Alors elle paye son billet et après, elle s'aperçoit que le chauffeur, c'est le même que celui qui l'a fait descendre il y a 12 ans. Et là, elle voit une place libre dans la partie centrale. Et elle s'assoit. Elle n'est pas la seule, hein. Ils sont quatre noirs dans la partie centrale. À l'arrêt suivant, des blancs montent et ils occupent toutes les places à l'avant, sauf un qui reste debout. Le chauffeur intervient.
« Oh ! Libérez-moi ces sièges !»
Personne ne bouge.
« Ne vous attirez pas inutilement des problèmes ! Libérez-moi ces places !»
Les trois autres obéissent, mais pas Rosa. On a dit que c'était parce qu'elle était fatiguée. C'est faux. Elle refuse de se lever parce qu'elle est fatiguée de courber les chines.
Ok, très bien. Je vais te faire arrêter. Voilà. Vous n'avez qu'à faire ça.
Et donc le chauffeur arrête le bus et il attend la police. Et deux policiers arrivent qui montent à bord.
Pourquoi est-ce que tu ne vas pas te lever? Et vous? Pourquoi est-ce que vous nous malmenez? Je sais pas. Mais la loi est la loi, et tu es en état d'arrestation.
Un policier attrape son sac, un autre son panier à provisions. Au passage, il demande au chauffeur.
Vous voulez porter plainte? Oui. Je finis mon boulot et je viens au bureau de police.
Et Rosa se retrouve au bureau de police.
Nom, prénom, adresse.
Et dans la foulée, elle est incarcérée à la prison de North Ripley Street. Elle n'a pas peur. Elle dit qu'à ce moment-là, elle n'a pas peur. Et elle se retrouve dans une cellule avec deux autres filles noires. Elle obtient de passer un coup de fil. Et elle appelle chez elle. C'est sa mère qui répond.
« Mam, je suis en prison, mam. Demande à Parks de venir pour essayer de me faire sortir. »
Sa mère lui passe alors Raymond.
« Parks, est-ce que tu veux bien me faire sortir d'ici ? Je suis en prison. »
Ok, Rosa. J'arrive. Je serai là dans quelques minutes.
Retour en cellule, pas longtemps. Une gardienne arrive.
Sors, tu es libre.
C'est une activiste blanche, Virginia Durr, qui a payé sa caution. Et Virginia Durr attend Rosa devant la prison.
Oh, Rosa, ça va? Vous n'avez pas été malmenée?
Mais elle sera jugée. Le procès est fixé au lundi suivant. Là-dessus, Raymond arrive et tout le monde se retrouve à la maison, y compris Virginia Durr. Les proches de Rosa sont en colère.
Ce genre de choses ne peut plus se reproduire.
Et le chef de l'Association nationale des gens de couleur, M. Nixon, fait alors une proposition.
Il faut porter cette affaire devant la Cour suprême. Et il faut faire de ton cas un exemple.
Elle hésite. Elle en parle à Raymond, à sa mère.
Ok. Je suis d'accord. On fait ça, je porte plainte.
Rosa est la plaignante idéale. Elle n'a pas de casier, elle a travaillé toute sa vie. Elle n'est pas enceinte d'un enfant illégitime. Sa seule faute est d'être noire. Le lendemain, 35 000 tracts sont imprimés. Je vous en lis un extrait. Encore une femme noire a été arrêtée pour avoir refusé de quitter sa place dans le bus. Il faut que cela cesse. Les noirs ont des droits. La prochaine fois, c'est peut-être à vous que ça arrivera. Cette femme sera jugée lundi. Nous demandons à tous les noirs de ne monter dans aucun bus ce jour-là. Et dans la foulée, un grand meeting est organisé à l'église baptiste de l'avenue Dexter. Beaucoup de pasteurs sont là. Ils promettent d'en parler dans leur sermon dimanche, veille du procès. Et le miracle, c'est que le dimanche matin, l'appel au boycott des bus est relayé à la une du journal local, le Montgomery Advertiser. On annonce de la pluie pour lundi, jour du procès. Pourvu que le boycott soit suivi. Le matin du procès, le ciel est sombre, chargé. Mais les bus sont vides. Les noirs marchent à pied. Et les taxis noirs font le tour des arrêts de bus pour transporter les uns et les autres à tarif réduit. Les militants de l'association des gens de couleur n'en reviennent pas. C'est la première fois que les noirs de Montgomery s'unissent contre la ségrégation. Aujourd'hui, Rosa ne va pas travailler, bien sûr. Elle met une longue robe noire avec un col blanc, un petit chapeau de velours avec des perles, un manteau gris, un sac à main et des gants blancs. Et elle arrive au tribunal. Un monde fou l'attend. Et les gens disent
« They have messed with the wrong one now !»
Ils s'en sont pris à la mauvaise personne. Le procès ne dure pas longtemps. Le chauffeur, James Black, est le principal témoin. Une femme vient aussi raconter un gros mensonge.
Il y avait une place de libre à l'arrière du bus. Eh bien, elle a refusé de la prendre.
Les avocats de Rosa plaident non coupable. Mais leur but, c'est qu'elle soit condamnée. Et elle l'est, rassurez-vous. Prison avec sursis et une amende de 10 dollars plus 4 dollars de frais de justice. Soir même. Un meeting se tient dans une église baptiste. L'église est pleine à craquer. On a installé des haut-parleurs à l'extérieur. Un groupe de pasteurs a décidé de former une nouvelle organisation, l'Association pour le progrès de Montgomery. Elle s'est choisie un président, un jeune pasteur qui vient d'arriver dans la ville. Martin Luther King. C'est Monsieur Nixon, le leader de l'Association des gens de couleur, qui prend la parole en premier.
Vous qui avez peur, vous feriez mieux de prendre vos affaires et de rentrer chez vous. Car cette histoire n'est pas prête de finir.
Et ensuite, c'est le docteur Luther King qui prend la parole.
Voici venu le temps de dire que nous n'en pouvons plus, que nous sommes fatigués. Pendant des années, nous avons fait preuve d'une patience incroyable. Nous avons peut-être laissé penser à nos frères blancs que nous aimions la manière dont nous sommes traités. Mais nous sommes ici ce soir pour finir de n'attendre rien d'autre que la liberté et la justice. Si vous vous battez avec courage, avec dignité, alors les livres d'histoire des générations futures marqueront une pause et diront là vivait un peuple noir qui injecta une nouvelle dignité dans les veines de la civilisation.
Et ensuite, le révérend Abernethy lit les revendications.
Nous demandons, petit 1, un traitement courtois pour tous dans le bus. Petit 2, premiers arrivés, premiers servis sur les places assises, avec les blancs à l'avant et les noirs à l'arrière. Petit 3, l'embauche de chauffeurs noirs sur les lignes qui desservent les quartiers noirs. Ceux qui sont pour, levez-vous.
Tout le monde se lève. Les conseils municipaux de Montgomery refusent tout aménagement. Alors le boycott se poursuit. Une semaine, deux semaines, trois semaines. Raymond et Rosa perdent leur job, l'un après l'autre. Fin janvier, les conseils municipaux finissent par accepter des aménagements. 10 places à l'avant pour les blancs, 10 à l'arrière pour les noirs, et au milieu, premier arrivé, premier servi. Mais le boycott se poursuit quand même. Début février, l'avocat Fred Gray dépose un recours auprès de la Cour fédérale devant la Cour suprême pour que soit déclarée illégale la ségrégation dans les bus de Montgomery. La Cour suprême met 9 mois à se prononcer. Et le 13 novembre 1956, elle déclare la ségrégation dans les bus de Montgomery inconstitutionnelle. C'est la victoire. Un mois plus tard, la décision est officielle. Et après une année entière de boycott des bus, le docteur Martin Luther King est le premier à monter dans un bus. J'ai passé plus de la moitié de ma vie à enseigner l'amour, la fraternité. Je continue de penser qu'il vaut mieux enseigner l'amour et l'égalité plutôt que la haine et les préjugés. Plus nous serons nombreux à atteindre cet état d'esprit, plus douces seront nos vies. Rosa Parks. Sweet Lord, sweet chariot, coming for to carry me home. Quelle belle histoire. La formidable histoire de Rosa Parks que nous allons débriefer maintenant avec un historien des États-Unis qui s'appelle Corentin. C'est là, il faut qu'on poursuive l'histoire parce que je l'ai arrêté là par manque de temps. Mais ce qui se passe à ce moment-là à Montgomery va entraîner la fin de la ségrégation tout court dans les États du Sud aux États-Unis. C'est le début d'un mouvement qu'on va appeler le mouvement des droits civiques, c'est ça ?
C'est ça, c'est la première pierre d'une décennie fantastique pour la communauté afro-américaine qui la voit récupérer l'égalité des droits dont elle avait été privée après la guerre de sécession et l'abolition de l'esclavage par les États du Sud. Et effectivement, c'est la première étape puisque à la suite de l'action de Rosa Parks, la Cour suprême conclut que non, on ne peut pas avoir deux communautés séparées mais égales, ce qui était sa position auparavant, qui justifiait la discrimination, et la Cour suprême dit non.
Et donc ça fait jurisprudence d'une certaine manière.
Exactement. Et donc, à partir de 1956, la Cour suprême dit, on a les communautés, elles doivent être égales dans l'absolu. Il n'y a plus de séparés mais égaux, comme c'était le cas depuis 1896. Donc effectivement, c'est le début d'une décennie fantastique pour la communauté afro-américaine, qui s'achève avec la loi sur les droits civiques, puis la loi sur le droit de vote, le Voting Rights Act.
Les droits civiques, c'est 1964.
C'est ça.
11 ans donc après le geste que pose Rosa Parks.
Alors, 9 ans et 10 ans après. Et en fait, ce sont deux lois fédérales qui permettent, en théorie, aux Afro-Américains d'avoir exactement les mêmes droits civiques. Alors ça c'est très vaste. C'est le même droit aussi à l'embauche, le même droit au logement, et évidemment le droit de vote qui est précisé l'année suivante par le Voting Rights Act. Et effectivement, à ce moment-là, l'objectif d'une égalité de droit dans la loi est atteinte. Sauf que, et c'est là la suite de l'histoire, bien évidemment, il suffit pas d'un coup de crayon de la loi pour effacer des décennies, voire des siècles de discrimination. Et c'est pour cela que la même présidence, qui est la présidence à l'époque de Johnson, qui a succédé à JFK, décide de lancer, de projeter ce qu'on a appelé la discrimination positive pour créer des conditions plus favorables aux Afro-Américains dans les administrations, pour obtenir des emplois dans les administrations, pour faire des études, parce qu'il faut récupérer, rattraper toutes ces décennies de retard. Et là, à partir de 1965, on entre donc dans une nouvelle ère de l'affirmation de la communauté afro-américaine.
Et le héros de ce mouvement des droits civiques, ça ne sera pas Rosa Parks. Ça aurait pu. Mais manifestement, elle n'en avait pas l'intention. En revanche, ça sera Martin Luther King qui est là, présent, le premier jour, quand il s'agit de se mobiliser pour Rosa Parks.
Alors, c'est aujourd'hui une ambiguïté que les historiens ont beaucoup étudiée, parce qu'il faut bien savoir que le geste de Rosa Parks vient d'un mouvement féminin, d'un conseil politique féminin de femmes afro-américaines qui se mobilisent en amont et qui veulent reproduire à Montgomery ce qui avait déjà été fait, par exemple, à Baton Rouge, en Louisiane, avec une femme en particulier qui s'appelle Jo Ann Robinson. Et c'est cette femme-là qui a l'idée
de la résistance,
voilà, ouais. Du boycott des bus, etc. Et simplement, elle attend une occasion. Et avec, en particulier, Nixon, dont vous avez parlé dans le récit, ils attendent la bonne candidate, celle qui dira non, qui refusera de bouger dans le bus et qui sera, j'allais dire, un symbole pouvant rallier tous les Afro-Américains.
Mais c'est un symbole et rien de plus.
Alors justement,
elle ne sera pas leader dans la foulée.
Non, justement, elle et Jo Ann Robinson sont écartées au profit de Martin Luther King. Et ça, les historiens insistent beaucoup là-dessus aujourd'hui. D'ailleurs,
écartées, vous dites?
Oui, elles sont réduites en tout cas à l'état d'icônes. Elles ne sont pas dans le comité de direction, par exemple, de l'association pour l'amélioration de Montgomery qui est créée pour mener le boycott. Et c'est Martin Luther King et d'autres, hein, des pasteurs en particulier, qui prennent les commandes de la...
C'est du machisme? C'est parce qu'elles sont femmes?
En tout cas, il est clair que ça ne rend pas justice du militantisme de Rosa Parks que vous avez évoqué dans votre récit et qui est réel. C'était une femme qui était quand même secrétaire de la section locale de l'association pour l'amélioration de la condition des gens de couleur, la NAACP, qui est la principale association aux États-Unis à l'époque de défense des droits des Afro-Américains. C'est une militante engagée et elle se retrouve du jour au lendemain. Alors, un symbole magnifique qui devient le point de ralliement, mais ce sont les hommes qui prennent les choses en main.
Est-ce que Luther King, s'il n'avait pas été présent à ce premier meeting à l'église baptiste pour prôner le boycott autour du cas de Rosa Parks, aurait été Luther King? Ou est-ce qu'au fond, il y a là pour lui une opportunité de devenir leader?
Il y a une opportunité de devenir leader, mais ce qui apparaît dans l'historiographie très fournie qui est consacrée à Martin Luther King ces dernières années, c'est que Il déborde de charisme, de magnétisme, et c'est un leader né, en fait. C'est vrai qu'il a cette capacité, il a surtout cette capacité oratoire.
Voilà, il parle aux foules, quoi.
Ouais, voilà, mobiliser les foules. Et donc, j'allais dire, c'est la rencontre de l'homme et du moment. Mais c'est vrai que, elles sont mises à l'écart. Les premières pionnières sont un peu mises à l'écart, mais elles sont mises à la fois sur le devant de la scène, mais à l'écart de la décision politique.
Alors, Corentin, il faut t'expliquer ce qui se passait au milieu du XXe siècle dans les États du Sud aux États-Unis. Parce que ce qui se passait dans l'Alabama ne se passait pas dans l'État de Washington ou dans celui de New York. Dans le nord des États-Unis, noir et blanc étaient à égalité et la ségrégation n'existait pas. Pourquoi est-ce que les États du Sud ont inventé la ségrégation et comment ils ont fait alors que la Constitution, 13e, 14e, 15e amendement, instaure l'égalité entre noirs et blancs? Comment ont-ils fait pour se débrouiller à instaurer la ségrégation?
Parce qu'il y a une sorte de pacte faustien qui est passé dans l'immédiat après-guerre de sécession. Donc la guerre de sécession, on se rappelle, hein, 1861-1865, c'est la guerre qui oppose le Nord abolitionniste, anti-esclavagiste, mené par Abraham Lincoln, et une grande partie du Sud qui veut maintenir l'institution particulière, ce qu'on appelle l'esclavage. Et donc, le Nord gagne, l'esclavage est aboli, la Constitution est modifiée pour accorder l'égalité à tous les citoyens, y compris les Afro-Américains, sauf que les républicains héritiers de Lincoln, après quelques années, renoncent à imposer, parce qu'il aurait fallu le faire par la force, en maintenant très longtemps, voilà, très longtemps désarmé. Ils renoncent à maintenir cet état de force, cet état de violence dans le Sud, et ils laissent les blancs démocrates reprendre les manettes du pouvoir à partir de la fin des années 1870, début des années 1880. Et là, dans tous les États anciennement sécessionnistes, confédérés du Sud...
Donc, catholiques, par ailleurs, ou chrétiens, en tout cas.
Très chrétiens, voilà, très chrétiens. Eh bien, les démocrates qui ont repris le pouvoir, ils ne peuvent pas interdire, par exemple, directement aux Afro-Américains de voter. Mais ils peuvent faire en sorte de faire des lois, de faire des constitutions qui vont imposer, par exemple, un sens, c'est-à-dire le paiement d'une somme pour pouvoir être inscrit sur les listes électorales, ou bien des tests d'alphabétisation, qui ne sont pas dirigés spécifiquement contre une communauté, simplement qui sont appliqués à tous. Mais évidemment,
dont l'effet d'écarter les Noirs.
Voilà, évidemment, qui va être écarté? Les Afro-Américains. Et par ailleurs, ils mettent en place, donc c'est tout ce qu'on va appeler ces législations Jim Crow, du nom en fait d'un personnage qu'avaient inventé les Blancs pour se moquer de ces Afro-Américains considérés comme paresseux, considérés comme un peu attardés. Et c'était Jim Crow, c'était un personnage dans les années 1830-1840 que les Blancs, en se peignant le visage en noir, représentaient en se moquant. Et donc ces lois Jim Crow, elles sont votées par exemple pour faire des écoles séparées.
L'idée, c'est on est égaux, mais ça n'empêche pas de vivre séparés.
Exactement. Des écoles séparées, des transports séparés, à l'intérieur même parfois du même moyen de transport, on l'a vu avec les bus. Et ce qui se passe, c'est qu'à la fin de la décennie 1890, la Cour suprême, qui est alors dominée par des juges ségrégationnistes et racistes, dans son arrêt Plessy contre Ferguson, dit... Non, ça ne rompt pas l'égalité, puisqu'ils ont droit à l'école, ils ont droit au transport, simplement, les États du Sud ont droit de maintenir ce qu'on va appeler, donc à partir de là, séparés mais égaux, cette doctrine séparés mais égaux.
Et ça va durer jusqu'en 1964, c'est fou.
Oui, alors, justement, ce que la Cour suprême fait, la Cour suprême peut le défaire, et c'est justement, ça éclaire bien le Rosa Parks, c'est que Rosa Parks, ça arrive en 1955, un peu plus d'un an après, un arrêt décisif de la Cour suprême, l'arrêt Brown, dans lequel la Cour suprême, désormais menée par un ancien gouverneur de Californie extrêmement libéral, progressiste et qui est hostile à la ségrégation, qui est Earl Warren, la Cour suprême dit dans l'arrêt Brown, les écoles ne peuvent plus être ségrégées, ne peuvent plus être séparées, parce que la Cour suprême l'écrit presque en ces termes. C'est de la foutaise, elle ne le dit pas comme ça, mais mieux. On ne peut pas avoir des écoles pour les Afro-Américains minables et des écoles où tous les moyens sont concentrés pour les Blancs. Donc il faut les mêmes écoles pour tout le monde. Et,
donc le terrain est favorable quand arrive Rosa Parks.
Exactement. Sauf que, évidemment, ces décisions de la Cour suprême et cette, ce cadre juridique, il faut pouvoir l'appliquer, il faut pouvoir le faire entrer en action. Et clairement, dès le lendemain de l'arrêt Brown de la Cour suprême, tous les États du Sud et tous les gouverneurs, en particulier du Sud et dans l'Alabama, disent « jamais chez nous ». Certains parleront même de crimes commis contre la civilisation des États-Unis, etc. Et donc, on a à la fois un grand espoir pour la communauté afro-américaine qui s'est levée après l'arrêt Brown et qui encourage encore plus à la mobilisation, et au contraire, une crispation très très forte qu'on voit dans la crise de Rosa Parks, parce qu'il ne faut pas oublier que la maison de Martin Luther King est attaquée pendant le boycott, que la maison de Nixon est attaquée, que Rosa Parks reçoit des menaces innombrables, et vous l'avez rappelé, après, elle ne trouvera plus jamais d'emploi dans la région, elle est obligée de déménager avec son mari et de partir vers le nord à Détroit.
Ils sont très faux culs d'ailleurs, j'ai pas eu le temps de raconter ça, mais les employeurs et de Raymond et de Rosa sont très faux culs. Ils ne leur disent pas « je vous vire parce que vous êtes en train de ficher la pagaille dans la région ». Ils trouvent des raisons, l'employeur de Raymond dit « je vais prendre votre travail, excusez-moi, mais moi aussi je suis coiffeur et barbier, et je vais me mettre au boulot, j'ai plus besoin de vous ».
Exactement, et ils sont exclus, et donc ce qui les amènera à s'exiler vers le nord et vers Détroit. Et on voit bien donc qu'il y a une crispation de la société blanche qui s'exprime bien pendant cette crise. C'est-à-dire que d'un côté, on a une communauté afro-américaine qui a pris espoir avec la succession, on ne peut pas toutes les faire ici, de décisions de la Cour suprême qui ouvre la voie à la déségrégation. Et face à ça, une communauté blanche du Sud qui tend au contraire à se rétracter et à se contracter. Et on est dans une atmosphère de tension et de violence.
Il faut qu'on parle de Rosa Parks, parce qu'elle dit que ce jour-là, elle n'a rien calculé, qu'elle n'a pas décidé de poser ce geste de résistance, mais on s'aperçoit qu'il y a tellement de monde derrière elle qui attend qu'une femme, un jour, refuse de se lever pour laisser la place à un blanc dans un bus. Et on a raconté l'histoire de Claudette. Ça n'allait pas à Claudette, parce que Claudette, elle était enceinte de manière illégitime. Ça n'était pas le bon cas. Et là, on se dit, Rosa Parks, c'est le cas idéal. Vous croyez sincèrement que ça s'est fait par hasard, vous ?
Alors, ça ne s'est pas fait par hasard. Il faut d'abord rappeler quelque chose, vraiment insister là-dessus, c'est le risque qu'elle prenait. Parce que, comme je le rappelais avant la pause, c'est une période où les militants des droits civiques afro-américains prennent un risque physique.
Vis-à-vis du Ku Klux Klan.
Pas seulement du Ku Klux Klan, les polices locales ne sont pas très tendres. Les punitions imposées, en particulier aux Afro-Américains, à l'époque, on pratique encore ce qu'on appelle le chain gang, c'est-à-dire ces prisonniers enchaînés à qui on va faire casser des cailloux et construire des routes ensuite en Alabama, au Mississippi. Il faut savoir, par exemple, que 7 à 8 ans auparavant, lors de du précédent grand moment des droits civiques, le fameux voyage de réconciliation où des jeunes sont allés prendre des bus entre les États, les uns après les autres, pour démontrer que la jurisprudence de la Cour suprême n'était pas appliquée, eh bien, l'un d'entre eux, le plus célèbre, Bayard Rustin, a été condamné à 30 jours d'enchaînement pour aller de sorte de travaux forcés enchaînés.
Donc elle risque ça.
Elle risque... Comme c'était une femme, peut-être qu'elle ne risquait pas ça, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on est dans une période où elle risque gros. Ensuite, c'est certain qu'il y a une attente politique et sociale. On a donc le mouvement du Conseil des politiques des femmes qui attend ça, qui veut lancer ce boycott. La NAACP, la fameuse association de défense et de promotion des gens de couleur, y est aussi favorable, il y a une convergence et comme je l'ai dit, le cadre est favorable, il y a eu l'arrêt Brown de la Cour suprême. Donc effectivement, on attend le moment. Ce qu'aujourd'hui, la plupart des historiens pensent, c'est que elle l'a fait parce que c'était quelqu'un qui avait son caractère, comme vous l'avez montré, qu'elle avait déjà eu maille à partir avec ce chauffeur et que ce jour-là, elle avait une grosse journée de travail, qu'elle en avait plein les bottes et qu'elle n'avait sûrement pas envie de se laisser faire comme elle le raconte. Simplement, elle a été au bon endroit au bon moment et elle a permis à toute une volonté sociale d'unification et de ralliement de la communauté afro-américaine de se produire. Donc, il est difficile de dire, c'est pas par hasard, mais c'est pas quelque chose de manigancé, c'est pas quelque chose de préparé. Simplement, son geste individuel a tout à coup rejoint une conscience collective.
Que va devenir Rosa Parks ensuite ? Elle va faire le tour des États-Unis pour donner des conférences. Elle va devenir une vedette, quoi.
Oui, alors, déjà, elle aura elle fera des conférences. Elle aura aussi un vrai travail. C'est très intéressant parce qu'elle sera la secrétaire et l'assistante personnelle d'un représentant afro-américain du Michigan.
Au Congrès.
Au Congrès, pendant très longtemps. Alors, ce qui est intéressant, c'est que à la fin des années 60, elle reviendra un petit peu sous les feux de l'actualité parce qu'elle sera une des figures du soulèvement du ghetto de Détroit, des grandes émeutes de Détroit. Et à ce moment-là, elle semble se rapprocher de formes plus radicales de contestation, mais on est dans une période différente. Elle se rapproche des thèses du Black Power, éventuellement même des Black Panthers, et elle montre par là même qu'elle reste une militante et une militante engagée très à gauche. Et ça, c'est important. Ensuite, il faut dire que elle a une fin de vie assez pénible. Premièrement parce qu'elle devra s'occuper de sa maman qui était
toute sa vie en vérité, elle va s'occuper de sa maman.
Voilà.
C'est sa maman. C'est à cause des problèmes de santé de sa maman déjà qu'elle quitte l'université.
Exactement. Et sa maman finit par être atteinte de démence. Elle doit s'en occuper. Son mari est mort très très précocement d'un cancer. Et ensuite, alors le dernier moment où malheureusement elle a été sous les feux de l'actualité, c'est dans les années 90 puisque se passe quelque chose qui a beaucoup marqué la communauté afro-américaine dans tous les États-Unis. Elle est agressée à Détroit par un voyou chez elle, afro-américain. Et évidemment, le symbole est fort et délicat. Et à ce moment-là, elle-même sera atteinte de démence. Elle aura une fin de vie extrêmement difficile. Elle quittera à partir de 1999 la scène publique. Et ce qui est intéressant, cependant, c'est qu'elle est, dès sa mort, reconnue comme un symbole de ralliement, cette fois-ci, de toute la communauté états-unienne, de toute la nation.
Les Blancs aux États-Unis la considèrent comme un symbole fort.
Oui, parce que justement, c'est un peu c'est un peu le prix aussi de son éloignement. C'est-à-dire que comme, sauf au moment des émeutes de Détroit, elle n'a pas été en première ligne politique, elle n'a pas eu des postes de responsabilité, elle est plus facilement qu'un Luther King, par exemple, elle est plus facilement adoptable par tous les États-Unis.
Elle est non clivante.
Voilà, et c'est à partir de ce moment-là qu'il y a eu une forme de... Elle est devenue vraiment, elle est encore aujourd'hui une icône.
Oui, une icône.
Voilà, exactement.
Lisez, vraiment lisez, parce que pendant des années on n'a pas pu le faire, les mémoires de Rosa Parks sous le titre Mon Histoire aux éditions Libertalia. Merci infiniment Corentin Célin d'être venu éclairer de votre savoir ce moment d'histoire contemporaine.
Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr.